Cette semaine, on a eu de la visite. Prise d'un coup de folie et même pas parce qu'elle écoute ce podcast, Carole a décidé de venir quelques jours découvrir notre petite vie berlinoise. Donc même si on est vendredi et pas dimanche, on a décidé d'enregistrer une édition spéciale où Marine,
coucou,
et moi pouvons l'interroger sur tout ce qu'elle a aimé et découvert à Berlin. Bienvenue dans la semaine berlinoise où est special guest star Carole.
Bonjour. If we
could stop the time. On a plein de trucs au programme, on va raconter tout ce qu'on t'a fait faire cette semaine. Ça donne un peu l'impression qu'on t'a forcé, mais je pense que tu étais...
Tout à fait consentante.
Voilà, merci, je cherchais le mot, j'étais la willing participant, c'est de l'anglais, on va pas commencer si tôt avec de l'anglais. Marine, toi qui ne connaissais pas Carole jusqu'à ce qu'elle arrive, on va commencer cette introduction par toi. Qu'est-ce que je t'avais raconté d'elle, juste que tu aides nos auditeurs à se contextualiser?
Qu'est-ce que je connaissais de Carole? Je savais qu'elle avait participé avec toi à la conférence Buffy de Sérimania.
Oui.
Que je n'ai pas vue.
C'est vrai.
Elle m'a frappée. Je suis nulle. Bon, on ne va pas en parler parce que sinon ça va durer trois plombes.
Bon, après, techniquement, ça fait 17 ans, 19 ans que tu l'entends, la conférence Buffy, en tout cas moi, ce que j'avais à en dire.
Ouais, oui, effectivement. Ensuite.
Ce qu'elle dit, c'est vachement intéressant.
Oui, je me doute. Maintenant que je la connais, je ne peux penser que cela. je la connais par rapport à Clap, donc son magazine en fait. C'est toi qui l'a créé.
Non, c'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui. Tout à fait.
Rédactrice en chef. Voilà.
Et elle s'en occupe
aussi. Très bien d'ailleurs, allez l'acheter. Hein, voilà. Oui. C'est ce que je sais un petit peu sur Carole. Après, elle parle beaucoup, donc elle a dit d'autres choses, mais bon.
T'arrives pas à tout suivre.
Je ne sais pas, c'est enrobé de tellement de choses à côté. Je sais qu'elle est fan de Buffy, donc ça c'est clair. Surtout que j'ai bien compris après un séjour avec elle. Buffy fait partie de sa vie.
Buffy, c'est la vie.
Parce que Buffy, c'est la vie, oui.
Qu'est-ce que tu veux qu'on sache d'autre sur toi, Carole? L'adresse du site où on peut tout le temps lire des trucs de Clap, c'est quoi?
Clapmag.com,
tout simplement. D'ailleurs, bientôt, j'aurai le plaisir d'avoir un truc à moi qui sera sur clapmag.com, qui pour l'instant est sur la version digitale du magazine. J'ai hâte que vous le découvriez. J'en ai un peu parlé sur Twitter, donc vous êtes déjà plus ou moins au courant. Quoi d'autre? Fan de Buffy, fan de bouffe, ça aussi on l'a découvert.
Fan de chocolat.
On va en parler plus tard.
Voilà, des détails importants pour comprendre cette édition spéciale et le type d'activité qu'on a eu pendant cette semaine. Berlin, première fois?
Première fois à Berlin. Berlin, c'est une ville où je voulais venir depuis très 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 longtemps, où j'ai tanné parfois certaines personnes pour m'accompagner et ça s'est jamais fait. C'est l'histoire peut-être d'un rendez-vous manqué pendant de très très nombreuses années. Donc j'ai entendu parler de Berlin longtemps, de ses évolutions, de Berlin c'était mieux avant, ceci, cela. Et puis depuis que je te connais, Yael, forcément, j'ai entendu à nouveau parler beaucoup de Berlin et j'avais envie à un moment donné de pouvoir venir à Berlin, mais pas de venir à Berlin avec le guide de retard dans la main et de faire des choses classiques de touriste.
Genre le jugement dans la voie
d'arrêt. Mais de découvrir comment, pourquoi je t'ai intriguée, de me dire... Toutes les personnes que je connais qui sont allées à Berlin un petit peu longtemps, en stage, pour travailler, soit ils sont restés, ne sont jamais revenus, soit sont revenus en France avec l'idée d'y retourner. Et du coup, c'était hyper intriguant, au-delà de vouloir découvrir une ville pour des raisons historiques, culturelles, parce que ça aussi, c'est important. Mais voilà, c'est vraiment une ville qui m'intriguait pour comprendre pourquoi les gens étaient aussi attachés d'un point de vue émotionnel à cette ville. Et voilà. Et donc.
Et cinq jours plus tard,
je comprends tout à fait. Je commence à comprendre et je suis encore plus enthousiaste
à l'idée de
revenir, à l'idée de comprendre cette ville que je ne l'étais avant de venir, quoi. Voilà.
Je tiens juste à dire que quand t'as dit les gens qui sont venus et qui sont jamais repartis, Marine a levé la main. C'est ma catégorie. Moi, je fais partie des gens qui sont venus en rêvant d'y habiter jusqu'à ce que j'y habite pour de vrai.
C'est ta catégorie bientôt.
Oui, voilà, parce que c'est un centre de recrutement, cet appartement. C'est-à-dire qu'on recrute des nouveaux Berlinois.
C'est donc, l'éternel retour de la berlinitude.
Et quand ils volent de leurs propres ailes, c'est-à-dire qu'ils prennent leur propre appartement, on en met un nouveau. Pouf, tac, nouvelle personne, voilà. Et pouf, prends ton envol dans la vie berlinoise.
Alors, on va commencer par le début, l'arrivée, parce que c'était un peu caractéristique. Donc, tu es arrivée à l'aéroport dimanche soir.
Je suis arrivée à l'aéroport dimanche soir avec un retard certain et donc avec la la petite appréhension qu'on ne se retrouve pas facilement, puisque je t'aurais fait poireauter dans l'aéroport un petit moment, etc.
En fait, j'étais ultra en retard, donc en fait,
pas du tout. Tout allait bien.
Enfin, j'étais en retard parce que je savais qu'il y avait du retard. Je tiens à préciser, hein, j'étais en retard, pas vraiment par rapport
C'était un retard organisé.
Voilà, c'est ça, c'était...
Voilà, et donc j'ai dépassé la salle du... Je sais plus comment ça s'appelle, le truc où on récupère les bagages avec le tapis roulant, puisque je n'en avais pas à récupérer. Et j'ai vu les portes battantes qui s'ouvrent vers l'extérieur de l'aéroport, et j'ai aperçu Yaël. Et en fait, je ne suis pas sortie, je continue tout droit pour aller aux toilettes.
Je t'ai coupé sur un team.
Voilà, une chose qui arrive très souvent à de nombreuses personnes, des êtres humains. Voilà. Et en fait, en t'apercevant à travers les portes battantes, j'ai eu ce flash d'un épisode de Buffy.
Hashtag surprise. Voilà.
Cet épisode où Willow revient à Sunnydale après être allée un petit peu en cure de désintoxication de magie en Grande-Bretagne, accompagnée par Giles. Et quand elle revient à Sunnydale, en fait, elle arrive à l'aéroport et elle ne voit pas ses amis qui l'attendent. Mais dans tout l'épisode, elle ne les trouve pas. Et eux, en fait, sont venus la chercher, mais ne l'ont pas vue. Donc elle est invisible à leurs yeux pendant tout un épisode. Et donc j'ai
Same time, same place, épisode 3, saison 7, pour ceux qui cherchent désespérément sur Google. Oui.
Merci. C'était la fin de ma phrase.
Pardon.
C'est
mon rôle. Et voilà. Je contextualise, je donne des informations à la con.
Évidemment. Et donc ça m'a. En fait, on se fiche. Soit de l'anecdote, puisque évidemment on s'est très bien trouvé, tu m'as très bien vu quand j'ai fini par passer les portes. Et voilà, ma première pensée, c'est que je vois Yaël, et évidemment j'ai une pensée buffyesque, ce qui donne un petit peu déjà une couleur à cette semaine.
Et moi, en marchant jusqu'au métro de la maison pour venir te chercher, je passe devant le cimetière devant lequel je passe depuis que Marine habite ici, donc depuis 12 ans, et je dis. Ah, en fait, les gargouilles au-dessus du cimetière, ça fait vraiment Buffy. J'y avais jamais vraiment trop réfléchi.
C'est des anges.
Oui, c'est vrai, c'est des anges.
Oui, c'est des anges.
Oui, c'est des anges. Ah oui, c'est des anges, c'est un peu comme cette... Il y a un plan que j'adore, et je sais jamais si c'est dans... C'est Grand Obsession with Dead People, ou si c'est dans l'épisode musical, où elle marche dans un cimetière devant un ange, et à un moment, elle s'arrête, et t'as les... Conversation with Dead People. Et qu'en fait, et tu la vois, et elle s'arrête, et du coup, t'as l'impression que les anges, les ailes de l'ange de la statue derrière sont ses ailes à elle.
Alors c'est vrai que nous, dès qu'on voit plein de choses autour de nous, on a tout le temps des pensées pour Buffy, sur des choses parfois improbables. Par exemple, moi, je vois un pull rouge dans un magasin, je pense à The Body. Bref, mais sur les... sur les anges, ça fait aussi beaucoup penser aux anges pleureurs de Doctor Who, mais je sais que c'est une série que tu n'aimes pas du tout, Yaël, ou enfin, avec laquelle tu n'as pas d'affinité particulière. Mais c'est intéressant que tu vois les anges comme des gargouilles, puisque dans Doctor Who, les anges deviennent des créatures monstrueuses hyper effrayantes, et ça, c'est un... Même si on peut avoir un rapport compliqué à la série, c'est un truc hyper astucieux.
J'ai un rapport compliqué à la série que j'ai découvert entre-temps, qui est existentiel. Hein, c'est-à-dire que c'est lié à mon point de vue philosophique sur le monde. C'est-à-dire que je respecte énormément la série, j'aime beaucoup les gens que je joue dedans. Alix est une grande fan, elle m'a expliqué, raconté plein de choses. Je ne supporte pas de la regarder parce que ça me crée des crises d'angoisse existentielle. Et alors c'est très rigolo parce que j'ai découvert pourquoi l'année dernière. Je dis en fait, c'est le contraire de Buffy. Buffy, tout dans Buffy fait sens. Ça a du sens. Le monde est absurde, la vie est absurde, machin, mais tout à un moment a un sens. Doctor Who, c'est le contraire. C'est le chaos. C'est l'univers et l'existence est complètement chaotique et rien n'a de sens, rien n'a de purpose. Et du coup, en fait, ça m'angoisse. Donc voilà. Petite parenthèse, mais ça vous donne une idée du type de semaine qu'on a eu. Marine est là. On est censé enregistrer ce podcast rapidement, les filles. Si vous commencez à parler Doctor Who, on est foutus.
Camille, il y a quelqu'un qui arrive.
Donc là, on est toujours dans l'aéroport. Et là, au moment où on essaie de s'avancer pour sortir de l'aéroport...
Oui, c'est ça. On se dit bonjour, 30 secondes.
30 secondes.
On
et là, on est
temps de se parler. Voilà,
nos retrouvailles sont interrompues en vol. On se fait alpaguer par un couple de Françaises qui sont un peu paumées et qui cherchent à rejoindre les transports en commun pour aller... alors Airbnb. Oui. Et là, donc, du coup, Yael s'est livrée à une...
Où est le RER ? En gros, quelqu'un leur avait dit de prendre le S-Bahn pour faire plaisir à Marine. Et je leur ai dit, le S-Bahn, c'est débile. C'est beaucoup mieux de prendre... De toute façon, il y a toujours des problèmes sur le S-Bahn. Prenez le bus, deux stations, le métro. Et puis, ouais, je me suis dit, non, mais... Je vais pas vous compliquer la vie. Je vais vous montrer où est le S-Bahn. Et là, elle me dit, non, mais si vous y allez en métro, on vous suit. Et du coup, elles nous ont suivies. Du coup, en plus, elles
allaient où, elles
allaient à Seestrasse.
Ah oui, donc le bedding, quoi.
Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai regardé, elle me disait, oui, c'est sur le U6. J'ai dit, ben, il me semble que le U7, U6, ça marche. Donc, du coup, je dis, bon, venez donc. Et donc, j'aurais dit, en plus, Meringdam, le changement entre le U7 et le U6, c'est sur le même quai. Donc, j'étais là, bon, ça va, elles vont pas se paumer. Donc, du coup, je les ai pris chou mon aile et on les a gardés jusqu'à ce qu'on arrive ici, à côté de la maison, parce que nous, on descendait avant. Et donc, j'ai fait 30 minutes de... introduction à Berlin
en express, c'est... tous les lieux incontournables à voir, soit à ne pas voir, soit à garder pour une prochaine fois, quoi faire un jour de pluie, où manger. J'ai compris tout de suite que c'est très important de savoir où manger et qu'on allait beaucoup manger.
Mais c'était hyper drôle parce que du coup je parlais à peine à Carole, tu vois, qui vient d'arriver. Bienvenue Carole dans ton séjour berlinois. Et bon, alors tu écoutes, je parle à ces nanas et je leur fais tout le numéro et tout le speech.
Mais c'était assez génial le truc. Visite express, quoi, ça devrait exister, ça, en fait. Comité d'accueil, bon, alors tout ce que vous devez savoir avant d'être lâché dans la nature tout seul dans une ville. Et ouais. Je pense qu'il y a, il y a une activité à développer.
Et tu mets une petite carte et puis après les adresses.
Voilà.
Et voilà, tac. Aujourd'hui tu fais ça.
Oui, c'est ça. Part un jour de pluie, quand il fait beau.
On a réservé une table là.
Et c'est ça. Elles avaient en fait elles avaient 4 jours. Elles venaient pour une expo, un truc chelou. C'est des amis qui étaient ostéopathes. Et oui, c'est des gens où les corps ont été... enfin, ils ont tout enlevé, il restait que les os, et ils ont remis de l'espèce de silicone pour les mettre dans des...
Les corps ont été dépecés.
La peau
a été retirée et on voit
les... Buffy.
C'est l'instant Warren.
Non, tout a été viré, tous les tissus, tous les machins, et ensuite ils ont rajouté du...
Et on voit les muscles, en fait. On voit toute la...
Donc elle était ostéo, donc ça l'intéressait. Est-ce que je peux comprendre? Et il disait que l'expo a été interdite en France parce qu'on ne sait pas trop l'origine des corps. On soupçonne que ce soit des prisonniers chinois. Et là, tu fais... Et j'ai regardé, je fais, ah ouais, ça fait vraiment flipper.
C'est vrai que moi j'en avais déjà entendu, parce que c'est une expo itinérante qui est quand même, c'est vrai, assez impressionnante et marquante. Et l'expo était à Amsterdam l'année dernière et donc à Berlin cette année.
Mais bon, voilà, donc nous, non. Mais par contre, c'était un. Et du coup, mais alors ce qui était très drôle, c'est que du coup, je leur ai dit de faire plein de choses et je leur ai suggéré plein de choses et Carole les a enregistrées en disant, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai un peu spoilé les possibilités. Enfin. C'était spoiler sur la semaine, voilà, tous les trucs. Quoique, je pense que ça nous a poussé à faire du coup ces trucs-là qu'on n'aurait peut-être pas fait, notamment le bird et tout un tas d'autres choses. Spoiler sur la suite du podcast.
On a beaucoup parlé burger tout de suite.
Oui, bah, je leur ai dit.
Pour éveiller ma curiosité.
Oui, je leur ai dit tout de suite, c'est la ville des burgers. J'aurais dit, c'est la ville de la bouffe. J'aurais dit ce qu'elle m'a dit Cody, qui habite ici depuis 30 ans récemment, qui était DJ avant et qui a dit. Quand je suis venue à Berlin en 88, c'était la ville de la musique. Aujourd'hui, c'est la ville de la bouffe. Et c'est vrai, j'aurais dit, regardez sur les blogs, regardez tous les trucs qui existent autour de là où vous êtes, parce qu'il ne faut pas rater l'occasion de bien bouffer à Berlin. Et là, j'ai dit, et le burger, c'est... Il y a des burgers partout, mais le meilleur burger d'Europe, c'est The Bird. Il y a une étincelle qui s'est allumée dans le regard de Carole, qui fait, ah bon ?
Il y a un événement qui s'appelle le Hip Hop and Burger,
oui.
Où c'est l'élection du meilleur burger de Berlin.
J'adore le sourire
qui restait bloqué là. De la musique et t'as plein de petits trucs avec les burgers et tu peux aussi devenir juge. Moi je bossais toujours en journée donc je pouvais jamais y aller, mais tu peux être juge et tu dois essayer et goûter tous les burgers, donc faut vraiment pas bouffer pendant 3 jours avant, je pense.
Finalement on a lâché les filles quand même, on est sorti du métro, on est rentré et tu as découvert l'appartement. Je voudrais juste que tu parles de ce que c'est que... Moi, je me rappelle que c'était la première fois que je suis venue ici.
Bah, la première chose que je t'ai dite, c'est que je n'ai rien dit, en fait. C'est qu'on est entré par le couloir, on est arrivé dans cet immense salon, et je t'ai dit, bah, écoute, je suis sans voix. Mais c'est un phénomène qui se reproduit assez souvent dans la semaine, en fait.
C'est un truc que j'ai découvert
assez
sur
symptomatique.
Je ne savais pas jusqu'à quel point tu étais silencieuse quand tu étais en train d'enregistrer une expérience importante. J'ai découvert un peu plus tard, donc fast forward, c'est joli l'appartement, oh mon Dieu c'est grand, oh c'est génial, blablabla. On sort, on va s'acheter un falafel shawarma parce qu'on a faim. On espère que Marine va nous rejoindre. Marine finit par effectivement nous rejoindre pour qu'on mange notre falafel sur notre petite terrasse, n'est-ce pas, notre petit balcon. Et là, Je, bien sûr, vu le podcast qu'on a enregistré la semaine dernière, vous ne serez pas surpris, je commence à parler de Arrow et je commence à expliquer à Carole pourquoi Arrow et Felicity, c'est génial et tout. Et là, Carole se tait, mais pendant genre 10 minutes et me regarde fixement. Et j'étais là, je suis en train de la saouler. Je continue à parler pendant 10 minutes quand même. Hein. Bonsoir, et j'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et en fait, je découvre un aspect de la personnalité de Carole, qui est que vu qu'elle est tellement vive et qu'elle a des opinions sur plein de choses, je pars du principe qu'elle est comme moi et qu'au bout d'un quart de seconde que tu dis quoi que ce soit, elle réagit, elle émote, elle exprime, elle est machin. Et en fait, non, d'abord, elle a une phase d'enregistrement pur. Tu sais, c'est en mode, tu sais, c'est comme les trucs qui sont sur record ou sur play. Elle est record. Et elle bouge plus. Et je suis là, je la saoule, je la saoule, je la saoule, je la saoule.
Comme quoi, il ne faut jamais faire de suppositions. Voilà,
et surtout, comme quoi, si j'ai l'impression que je saoule quelqu'un, peut-être que j'arrête de parler.
C'est vrai qu'après, quand t'es lancée à parler, c'est difficile de te couper en vol. Mais j'ai la capacité de le faire, effectivement. Et alors, moi, il y a un truc, c'est que si je ne connais pas un sujet, je me tais. Je ne parle pas sur un truc que je ne connais
amateur.
Pas.
Amateur.
Mais non, c'est mon côté éternel étudiant que j'assume complètement.
C'est pas amateur, c'est professionnel ce que tu dis.
Et voilà, donc j'enregistre et une fois que je serai en capacité d'émettre un jugement, j'émettrai un jugement. Mais j'aime bien aussi que quelqu'un m'apporte quelque chose que je ne connais pas et que c'est un des premières raisons pour laquelle je pense j'ai envie de me lever le matin et pas juste envie de me pendre, c'est de me dire ah tiens aujourd'hui je vais apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Là, cette semaine, je m'en suis plus plein la gueule.
Je suis plus comme elle à écouter. Quand je connais pas les sujets, j'en ai écouté aussi. Et après.
Et puis, c'est le plaisir de voir quelqu'un qui a envie de transmettre.
Moi, j'avoue, je me sens très seule. J'avoue, parler. Je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et je n'arrête toujours quand même pas de parler. Et
donc, tu as découvert tes paroles.
C'est not so sweet. C'est vrai, en plus, ça me fait plaisir que tu le dises. Tu as aussi découvert que le falafel shawarma à côté de la maison coûtait 3 euros.
Tiba.
Et que c'était trop, trop bon. Tiba, oui, ça s'appelle Tiba et c'est Karl Marx Tracé. On vous mettra l'adresse dans le poste. J'avais dit qu'on mettrait 10 minutes à parler du début, on en est déjà à 17-18 minutes. Ok, donc on va passer directement à lundi, la première journée où tu as vraiment passé du temps dans la ville et tu as eu vraiment de la chance parce que Marine ne travaillait pas ce jour-là et donc elle a décidé de nous servir de guide. Alors, c'est des quartiers que je connais un peu moins bien, et voilà. Mais l'expérience de Marine est toujours très utile, et en plus, on a réussi à convaincre Petit Bert de. Enfin, on lui a demandé en fait. de te prêter son vélo.
Que je n'ai presque pas cassé.
Ça t'a traumatisé cette histoire de pédale, hein.
Non, parce que déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a eu une histoire de pédale dans le podcast, mais là, c'est la pédale.
Alors, il faut quand même remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Le vélo et moi, ça fait un petit peu deux de façon générale. Que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à faire du vélo, que j'ai le vertige et que je suis capable d'avoir le vertige sur un vélo.
Ah, toi, tu ne savais pas.
Ah, j'ai pas dit ça. Ah, ouais, ok.
Mais qu'en même temps, j'avais décidé que cette semaine, je disais oui à tout. Sauf si c'était complètement amoral, tu vois. Genre, tu me dis, viens, on va tuer quelqu'un en morceaux, en mode Denis Brasco, on va le couper en petits morceaux dans une voiture. Je pense que j'aurais dit non.
Mais voilà.
Ça dépend quelle est la personne concernée, tu vois, dans les sacs poubelles. Mais de façon générale, j'ai décidé que je disais oui à tout.
Trump. Non, moi je suis contre la peine de mort. Donc
bah écoute, on le regardera.
On l'enferme.
J'apprendrai comme ça, j'observerai, j'apprendrai.
Non, c'est si tu conduis à la voiture, mais tu as le permis? Non.
Non, j'ai pas
le permis. Mais on n'a pas le permis alors, avec le vélo et on tire le truc. Magnifique. Un désastre.
C'est un film. Les trois autres
vélos, qui n'ont pas le permis. Ils ont tué Trump.
Bon, bref.
Anyway.
Et donc, surtout faire du vélo dans la circulation, c'était un truc qui me faisait un petit peu flipper. Je crois d'ailleurs. Voilà. Et le truc, c'est que on est arrivé devant les vélos dans la petite cour intérieure de votre ravissant immeuble. Et là, en fait, j'ai vu la taille du vélo par rapport à ma taille. Je crois que ma tête a changé. C'est un petit peu comme récemment, je suis dans un parc d'attractions et le moment où j'ai vu le grand 8. Où tout d'un coup, toutes les expressions de mon visage se sont figées et l'attraction terrestre s'est fait sentir dans tous les traits de mon corps. Là, c'est à peu près ce qui s'est passé quand j'ai vu la taille du vélo. Je me suis dit, ça va pas être possible.
Et là, je fais, ah oui !
Détail important.
C'est un vélo rétropédalage.
Et là, je t'ai répondu, le rétropédalage, je connais très bien en ce qui concerne la psychologie humaine et en particulier la psychologie masculine, mais je n'ai jamais pratiqué en ce qui concerne le vélo.
Donc le rétropédalage, c'est qu'une grande partie, je crois que moi j'appelle ça les vélos hollandais, mais en fait je ne sais pas si c'est que les vélos hollandais, mais en tout cas c'est un système qui fait que sur ces vélos-là, le freinage se fait en rétropédalage. Ce qui veut dire que déjà, le frein qui sont au niveau des mains sont pratiquement...
Le frein, oui.
Oui, le frein, déjà, il y en a un seul et il est très faible. C'est justement juste un truc de soutien. c'est un deuxième frein, un peu comme dans les trucs normaux, tel roue arrière ou avant. Et en plus, ça veut dire aussi que pour les gens qui sont habitués à rétro-pédaler, justement, normalement, c'est-à-dire que pour mettre leur pédale au bon endroit ou pour faire quelque chose, bah, tu peux plus, parce que dès que tu pédales à l'envers, automatiquement, ça freine. Donc, quand tu es pas habitué, moi, ça m'est arrivé, j'ai appris à faire du vélo comme ça avec mon premier vélo allemand quand j'étais au pair en 2000. Et les premières fois, il m'est arrivé ce truc de vouloir remettre la pédale au bon endroit et de freiner sans y penser que j'avais freiné et de piler au milieu de la route. Et là, tu fais « Ah !» Et Thibaut a failli se prendre deux voitures comme ça et a passé au-dessus de son vélo. Mais il s'est habitué. Du coup, je te dis « Non, non, mais c'est bon, tu vas voir, c'est vachement plus intuitif que ce que tu crois. » Donc, tu avais un vélo un peu grand. Tu ne savais pas faire du rétro-pédalage et en plus, tu ne nous avais pas dit que tu allais le vertige à vélo. Ce qui est un grand truc. Et j'ai bien, parce qu'un quart de seconde, je me suis dit, ah, monsieur, tu veux prendre mon vélo parce que moi, il n'est pas en rétro-pédalage. Et la selle de mon vélo est à peu près 20 cm, ou j'exagère, 10 cm au-dessus de celle de celui que tu allais prendre. Donc, ce n'était pas non plus une option. Je tiens à dire que je suis petite aussi. Hein, c'est juste que moi, je fais du vélo.
En danseuse.
En danseuse ou à moitié allongée, pas assise droite.
Voilà, mais au-delà de ces détails techniques, c'était une super façon de pouvoir parcourir beaucoup de kilomètres rapidement et puis et d'être dans la ville. C'est vrai que moi j'aime beaucoup marcher de façon générale. J'aime beaucoup habiter la ville, c'est important. Même à Paris, je le fais parfois de sortir juste pour marcher, découvrir des petites rues que je connais pas, des rues où on va pas s'il n'y a pas une raison fonctionnelle d'y aller. Et du coup là voilà, pour pas non plus se mettre plein de kilomètres dans les mollets dès le départ, c'était une bonne option le vélo, puis ça a permis que j'ai une visite guidée en plus intensive et puis pas forcément d'un aspect de Berlin que j'aurais vu autrement, que j'aurais vu tout de suite, parce qu'on n'était pas justement sur des espaces canoniques historiques et les monuments etc.
Mais
sur,
voilà,
on a vu d'autres espaces et du coup c'était le Berlin que je voulais voir, c'est-à-dire voir votre Berlin à vous, les endroits que vous aimez, que vous aimez pas, voilà, d'avoir des petites anecdotes d'insiders.
Et donc Marine, t'as plus ou moins décidé du parcours et moi je te faisais entièrement confiance, t'as choisi de l'emmener à Kreuzberg.
Kreuzberg en passant par Richardplatz avant, pour éviter la Karl-Marx-Strasse qui est en travaux et vu qu'elle commençait son vélo là, elle aurait fait genre une crise cardiaque sur le chemin.
Elle m'a dit justement de partir, elle a dit ah non non, on passe pas par la Karl-Marx, sinon au bout de deux secondes elle a dit oh je rentre à la maison, je vais pas être en vélo.
Il y a pas de place en plus, les gens étaient limite, elle va se faire écraser quoi, donc non. Donc on est passé par la Richardplatz, la place de Richard. N'importe quoi, moi. Richardplatz. Et ensuite, on en a profité pour regonfler nos pneus, d'ailleurs. C'était une très bonne idée.
Oui, sachant que Yael, quand elle essaie de regonfler ses pneus, elle ouvre le truc, elle dégonfle son pneu entièrement.
Ah oui, c'est vrai, ça fait toute la partie du truc. T'entends. Et après, elle regonfle, elle fait genre... Bah oui, mais tu l'as tout dégonflé. Oh, c'est long, hein. Il balance par rapport à tout ça.
Parce que c'est là que j'ai découvert, quand même, c'est 3 ans que j'habite ici, mais qu'il y a devant les marches, certains trucs de vélo, il y a juste.
Devant tous les trucs de vélo.
Devant tous les trucs de vélo, il y a un truc spécial où tu l'appuies, ça gonfle ton pneu.
T'as une pompe, en fait, t'as des pompes, t'as des tuyaux d'air et tchouk. Ben là, ça sortait du sol, mais pas tout le temps. Hein. Des fois, t'as juste les pompes avec ce truc, le manche au-dessus, tu sais que tu.
Qui fait comme un truc de.
Là, t'as juste à appuyer.
Et là, t'appuies. Moi, j'ai comme un truc de dynamite, toi, tu dis un piston.
Là, c'est super simple.
Différence.
Ouais. Sur t'appuyais pas, parce qu'en plus, elle râlait, parce qu'elle dit, ah, oh, ça dure longtemps. Je fais, mais en même temps, tu pourrais pomper, hein. Genre.
L'enfer.
Là, c'était juste à appuyer sur le bouton. Donc voilà, donc après, on est parti. Et donc, oui, donc j'ai décidé de les emmener à Kreuzberg, parce que justement. C'est très joli par là, et en gros, il y a un immense cimetière aussi qui me fait penser à Buffy. Donc, j'allais y passer devant dans la Bergmannstrasse. Mais on a fait tout le long, donc on est parti vers Hermannplatz, on a pris la Hasenheide qui longe un parc et qui est très long et qui a des pistes cyclables surtout, en plus. C'est très important parce que, bon, madame avait le vertige. Nouveauté. Et donc, après, on a pris la Bergmannstrasse, on a il faisait beau surtout, donc c'était quand même super agréable.
Du coup, Kreuzberg, explique deux secondes, t'as dit, parce qu'il y a...
Il y a différents Kreuzberg. Il y a le de Kreuzberg 61, on écrira ça dans l'explication, parce que je ne sais même plus, c'est un rapport avec le
code postal,
autre chose, mais il y a le Kreuzberg 61 et le Kreuzberg 36. Le Kreuzberg 61, c'est toute cette partie qui est Bergmannstrasse, Meringdam, qui est censée être un peu plus bobo entre guillemets, mais maintenant personnellement Berlin c'est bobo partout. Donc c'est juste, t'as une rue qui est un peu moins bobo et l'autre qui est plus bobo, mais genre c'est genre, c'est juste les personnes qui veulent être un peu punk encore qui disent non non mais c'est les bobos, c'est Prenzlauberg. Je fais non non mais tu t'es vu. C'est bon, vous êtes tous des bobos.
C'est ce que t'as décrit, t'as dit t'es en train de boire ton petit flat white sur ta terrasse.
C'est genre, non, mais eux, c'est des bobos. Je fais,
t'es pas punk.
Ah, lui, c'est un hipster. Je fais, tu t'es vu? T'es un bun, donc tais-toi. C'est un peu ça. Ouais. Et tu as le Kreuzberg 36, qui est Kölbusser Tor, qui est Görlitz-Urbanhof, Schlesisches Tor, qui est toute la partie du métro U1, en fait, au-dessus et en dessous. Et c'est beaucoup plus punk en fait. C'est là où il y a le SO 36 qui était. Je sais même plus si ça existe encore, je pense que oui. C'est juste qu'on ne sort pas en des clubs. Mais qui était la scène punk en fait. Et un peu trash de Berlin, donc à Kreuzberg. Donc c'était vraiment deux différences entre ces deux Kreuzberg.
Et c'est encore l'endroit où quand tu sors du métro, il y a 50 mecs qui disent You want some weed? You
ça,
want
c'est
some
weed? Görlitz-Urbanhof. Görlitz-Urbanhof, c'est la weed. C'est weed. Et Schlesisches Tor, c'est des trucs un peu plus durs. Donc, vous savez où aller selon ce que vous voulez, selon les parties. Parce qu'il y a plein de clubs en fait. Schlesisches Strasse, en fait, qui est long, qui va de Schlesisches Tor jusqu'à Treptower Park. C'est très long. C'est là où il y a le club des visionnaires, le bas de shift. Il y a plein de clubs et de trucs comme ça. Donc, en gros, c'est vrai qu'on te propose vachement plus de coke et de choses plus dures, donc voilà, ou de petites pilules.
Donc, c'est pour savoir.
Prenez vos notes, mais je vous dirai pas si c'est bien parce que je suis anti-drogue et je ne prends pas de drogue, donc voilà. Et je suis contre les drogues.
On est déjà tellement tarés dans notre tête. Comment t'imagines si on prenait des substances, mais laisse tomber quoi. Donc ouais. Oui, spoiler donc, alert, je ne prends pas de substances, je suis comme ça naturelle.
Donc voilà, Kreuzberg, c'était ça. Donc j'ai décidé de commencer par le 61. Donc on est allé après jusqu'à Victoria Park, un petit parc très sympa, juste pour qu'elle voie l'entrée avec la petite fontaine. C'était super joli. La cascade, c'est même pas une fontaine, c'est une cascade, c'est des pierres. Et ensuite, on est reparti et on est allé vers le Kreuzberg 61 et. 36, pardon. Merci elle.
Je suis.
Parce que il fallait absolument acheter une place de concert. Parce qu'on avait planifié d'aller au concert de Band of Horses ce soir-là.
Et on a réussi le matin, j'ai réussi à la convaincre en 2-3 phrases.
En 15 secondes.
En 15 secondes, j'ai entendu. Je sortais de la douche avec ma musique qui n'avait même plus de son tellement elle écoutait le truc fort sur le balcon. Et je fais genre, mais c'est Band of Horses. Oh! Elle essaye de la faire venir au concert.
Non, l'abstinement est en marche.
C'était facile.
Oui, et en fait, comme je disais tout à l'heure, j'avais décidé que de toute façon, cette semaine, je disais oui à tout et que le but de cette semaine, c'est de faire des choses nouvelles et de découvrir comment vous viviez dans plein d'aspects différents. Donc, j'ai dit, oui, vous allez au concert, je viens avec vous, mm-hmm. avec plaisir.
Et notre magasin pour acheter des billets de concert, Coca, enfin, le magasin de Marine, que maintenant j'appelle notre magasin, est à Kölbusser Tor, donc dans le Kreuzberg 36.
Dans la Oranienstrasse.
Dans la Oranienstrasse. Et donc, on y va pour acheter, parce qu'ici, on fait old school, nous, on aime bien acheter nos billets au magasin, avoir des vrais billets imprimés, plutôt que d'avoir des e-tickets.
Ou de copies pourries, qui prennent trop de place.
Donc, on est allé acheter ton billet. Mm-hmm. Et là, je leur avais demandé, on pourra aller dans le magasin de laine. Mon magasin de laine traditionnel a fermé, donc j'ai un nouveau magasin de laine dont tu m'avais parlé. Qui s'appelle Volet, ce qui veut dire laine, tout simplement. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé quand j'étais allée. J'étais allée pour trouver le matos pour faire le Pegacorn de Thibaut, dont j'ai déjà parlé ici. Et je me suis dit, si on va voir, je pourrais avoir une excuse d'acheter la nouvelle laine. Si jamais Carole, elle voit un truc qui lui plaît, je pourrais lui fabriquer un truc pendant qu'elle est là. Donc, voilà.
Bingo.
Bien sûr,
on est allé à Bola.
Voilà, j'ai trouvé un truc pour faire un bonnet à Marine, un truc pour faire des manchons et un bonnet à Carole, que j'ai déjà bien avancé d'ailleurs. C'est pour ça que j'étais en train de tricoter pendant une grande partie du séjour.
Et t'as trouvé une laine pour une écharpe.
Et j'ai trouvé une laine pour moi, super belle pour faire une écharpe. Et ils sont hyper cool parce que
ce mec il parle français. Enfin, il était trop content. Enfin, c'est vrai qu'ils sont super cool.
Ils sont hyper adorables.
Et le mec, il est bonbon.
Oui, c'est ça. On a parlé français pendant un quart d'heure dans le magasin parce que son réaliste qui comprenait. Oups. Heureusement, on n'a rien dit de mal. Non, mais en fait, je me posais la question.
Il a su écrire son prénom. Ouais, c'est super important déjà.
C'est très rare.
Ça monte.
Donc, du coup, voilà, j'étais contente, j'étais toute happy, j'ai dépensé un peu de sous, mais pas trop non plus. Allez, c'est pas très grave, ça fait plaisir, même si j'ai 250 pelotes de laine à la maison. On sort, on va pour reprendre nos vélos tranquillement.
Et là, on est interrompu en vol par Marine.
Qui était en train d'ouvrir son cadenas et qui referme son cadenas.
Il me dit, venez, prenez vos sacs.
Prenez vos sacs et suivez-moi.
Là, on comprend pas ce qui nous arrive.
Et elle nous emmène à la porte d'à côté du magasin de laine. La pire découverte de mon existence.
Qui s'appelle
Modern Graphics. Et qui est un putain de magasin de comics. Et de tout ce que tu peux imaginer que tu as envie d'acheter autour des super-héros et des machins, genre la Wonder Woman Lunchbox, j'en rêve encore. Le plateau aux couleurs du bouclier de Captain America. Et bien sûr, des comics.
Des comics et surtout aussi beaucoup de comics et de livres en anglais.
Bah en fait, c'est ça.
On n'avait pas anticipé.
On rentre dans le magasin et Marine dit, vous inquiétez pas, c'est que des trucs en allemand.
Bah, c'était. Effectivement, que tu fais qu'en allemand. Et en fait, la salle du fond.
Maintenant, il y a tout en anglais.
C'est que en anglais. Et elle est grande, la salle du fond.
Donc il y a trois salles. Donc, c'est-à-dire que dans les avec fonds, des livres, ouais, des produits dérivés.
Les produits dérivés, c'est la première salle. Donc tu peux déjà être pris.
Tu peux déjà tuer ta carte bleue.
Exactement, parce que tous les trucs Wonder Woman, les t-shirts, les machins, genre. Ah. Et à la fin, c'est les comics.
Effectivement, on a fait un peu tous les sens de l'autre en donnant. De l'une de nos trois, et en fait, on se retournait pour regarder ce qu'il y avait. Et le meilleur moment, c'était dans la salle du fond. Donc moi, j'étais d'un coup, je me dis. Bing! Ah, oh, mais je pourrais peut-être trouver des Wonder Woman de la première période, des années 40, parce que vu que j'ai lu l'histoire de Wonder Woman, justement des origines des années 40 et comment toutes ces premières planches ont été faites et écrites. Et là, je me dis, oh, et puis surtout, je pense qu'il y a peut-être un truc autour de Wonder Woman qui va se faire à Comic-Con, spoiler, teasing. J'allais lui dire spoiler, 30 secondes, pas bon. Et je me dis, bah, j'ai vraiment besoin de l'acheter, du coup, et là. Marine me fait ah! Je me retourne, je fais quoi? Et elle me pointe le doigt vers un endroit où il y a 250 bouquins. Donc je regarde le truc et tu vois, en plus, il y avait vraiment le premier plan, deuxième plan, troisième plan de bouquins. Et je dis, mais quoi? Et là, elle me fait Saga. Pour ceux qui écoutent ce podcast, vous saurez à quel point c'est dangereux. Et là, on voit le magnifique hardcover dont j'avais parlé, qui a du chapitre 19 au chapitre 36. Sauf qu'on a déjà du chapitre 19 au chapitre 24. Et le truc coûte 50 euros. Il est sublime, par contre. Énorme. Et
Mais elle avait déjà des trucs qu'elle voulait acheter. C'est t'avais ça. Déjà un truc dans les mains, non? Qu'est-ce que t'avais déjà dans les mains?
Non, j'avais pas encore. Dans les mains.
T'as encore.
Et du coup, là, tout d'un coup, on réalise qu'à côté de nous, il y a les autres petits bouquins.
Numéro 5.
Et du coup, on achète le 5.
Numéro 6.
Et là, je tombe sur Buffy, je fais bon, allez, premier de la saison 11, bingo, et j'ai pris Wonder Woman, donc je m'en suis sortie avec 71 euros. Bon, 4 bouquins comics avec plein d'issues dedans, ok, mais quand même.
Moi, je suis très heureuse de n'avoir pas dépensé 1 euro.
Bah, je suis à Boston, donc en même temps, c'est.
Voilà.
C'était ça ton excuse.
Genre, je suis aux États-Unis, il y en aura plus.
Non, l'excuse, surtout si je mets la main dans l'engrenage, c'est fini en fait. C'était
tout. Mais d'ailleurs, tout rien. C'était un peu la seule fois où t'as réussi à ne rien acheter. Hein,
oui, j'ai commencé raisonnable le premier jour et après, c'était le début de la fin.
Donc voilà, et donc.
Et après, qu'est-ce qu'on a fait?
Non, mais quand même, je voudrais prendre un instant de silence pour être réalisé le fait que mon magasin de laine préféré est à côté d'un magasin de comics, mais c'est juste la fin du monde quoi. C'est que si je craque, si j'ai un tout petit peu de sous à dépenser, il va falloir à chaque fois, ça va être le choix de Sophie. Et je vais dans quel magasin? Sans parler du fait que si j'ai un tout petit peu plus d'argent à dépenser, mais que j'ai envie d'être raisonnable, ce sera mort. Ah, les cloches. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé boire un petit café, parce qu'il fallait quand même se remettre de toutes ces émotions. Et donc, on est allé au
café-bar. Dans la Greifstrasse, toujours Kreuzberg, donc. Mais on est retourné dans le Kreuzberg 61, mais c'est pas vraiment 61, c'est un peu compliqué, mais c'est entre les deux. Près du canal, très sympathique.
Le café dont j'oublie tout le temps le nom, et à chaque fois que j'arrive devant et que je vois que ça s'appelle Café Bar, je me dis, ah, c'est pour ça que j'oublie le nom, parce que ça a pas de nom.
Trop simple pour être vrai. Et alors, moi, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, et qui s'est reproduit plusieurs fois dans la semaine, c'est qu'en fait, dans Berlin, il y a beaucoup de grosses artères avec beaucoup de circulation, beaucoup de bruit, et très très vite, on peut se retrouver dans une petite rue, ou même une rue de taille moyenne, hyper calme. Et ça, je trouve ça très très appréciable.
T'entends
parce que moi,
oiseaux.
Je t'entends les oiseaux, et il y a plein de petites terrasses à des endroits improbables, devant des immeubles qui parfois ressemblent à des HLM, sauf qu'ils ont mis des jolies peintures dessus. Et voilà, et donc on passe d'un endroit hyper, hyper, pas oppressant, mais voilà,
urbain.
Hyper urbain, hyper stimulant pour les oreilles, à un espace super calme, avec des espaces piétons, où les gens peuvent se balader, même avec des enfants, les laisser courir devant la terrasse, et c'est pas, voilà, et crier accessoirement, mais voilà, on peut se déplacer et sans être en danger ou quoi que ce soit, et être au calme, et ça c'est tellement, tellement appréciable, et c'est quelque chose qu'on connaît tellement pas à Paris, à part dans des endroits, dans des petites poches un petit peu qui ont survécu comme des villages gaulois pour la tranquillité. Et là, je trouve que ça se reproduit à plein d'endroits dans des quartiers différents. Et ça, c'est quand même assez génial.
Je suis assez d'accord. Il y a en général un côté hallucinant d'une rue à l'autre. D'un coup, tout change, tout est différent. Mais effectivement, il y a aussi cette idée de... C'est pas d'un côté, c'est comme ça, de l'autre côté, c'est comme ça. C'est vraiment... C'est dispersé, en fait. Et c'est vrai qu'à Paris, quand on trouve un endroit comme ça, c'est un peu genre... Il y a une petite rue, c'est incroyable. Alors qu'ici, ça paraît presque normal. Et alors, c'était l'activité culturelle la plus personnelle du séjour. Tu as observé Marine en train de créer un événement Facebook pour son anniversaire et en train de sélectionner les gens qu'elle voulait ou pas inviter. Et tu as dit toi-même, il y a une vidéo à faire. Parce que Marine fait, non, toi t'es con, non, oui, ah oui, ou oui, toi j'ai envie de te revoir.
Ça aurait pu être le début d'un one woman show.
C'est vrai que c'est un super début d'histoire, ça. Il faudrait qu'on l'utilise un jour. Et Marine, elle est là. Merde, il y a tous mes amis sur Facebook qui vont dire c'est moi qui t'as dit que t'étais. Pourquoi j'ai pas été invitée?
Plus de 700 amis. La moitié, c'est des amis. La moitié, c'est des gens que je connais, j'ai oublié. Il y a des gens qui sont cons, surtout. Mais qui peuvent servir. Je ne citerai personne.
Bah, oui, c'est l'élément de
networking. Il parle pas français, il n'écoute pas le podcast. Niac.
Après toutes ces aventures, on est rentré à la maison.
Rapidement.
On a couru voir Bed of Horses.
Enfin, on allait en vélo.
On a pédalé vite.
On a pédalé, du coup, j'ai pédalé et de jour et de nuit dans la même journée, s'il vous plaît.
Magnifique.
Donc, on est allé voir Bed of Horses. On est allé voir. Alors, juste petite anecdote. En plus, la raison pour laquelle je me disais que c'était providentiel, il fallait que tu viennes à ce concert, c'est que ce concert était à Huxley's Neue Welt. Qui est une salle de concert qui est juste à côté de la maison, à deux stations.
Hermannplatz.
Et qui, en fait, la raison pour laquelle nous sommes tous à Berlin.
Oui.
C'est-à-dire qu'en 2004, Marine me rend visite à Stuttgart et on découvre que James Masters va être en concert à Berlin en mai. Et je dis, l'année dernière, je l'ai raté, cette année, je le vois, je m'en fous. Et je dis à Marine, non, mais ce serait une bonne occasion de faire un séjour culturel à Berlin. Et par la même occasion, on voit James Masters. Et puis justement, j'ai une copine qui habite Berlin et elle m'a dit que je pense que je lui envoie un message et on peut squatter chez elle. Et donc, on était venus passer une semaine à Berlin. Marine est tombée follement amoureuse de la ville. Elle est revenue un mois plus tard pour y vivre. Il s'avère finalement définitivement. Et moi, du coup, aussi grâce à ça, je vis ici. Et tout ça, c'est grâce à James Masters. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est Spike dans Buffy. Et donc, on l'a vu dans cette salle. C'est cette salle, c'est la raison pour laquelle on est à Berlin. Et donc, le fait de t'emmener, toi, dans la salle où on a vu James, et voilà, c'était beau. Beau et symbolique. Bien que la salle est complètement dans l'autre sens de comme elle était à l'époque, mais on est d'accord. Hein.
Tout à fait. Non, mais il n'y avait rien dans cette salle. Enfin, il y avait juste les barres sur les côtés, toujours, qui ressemblaient à une salle de bowling.
Oui.
Et maintenant, ça ressemble à une salle de concert.
C'est une salle de concert, donc il y a un grand parterre, on est tous debout, et une espèce donc comment on pourrait dire, une estrade, un grésin,
un balcon,
mais un balcon un peu construit. Un peu urbain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un balcon traditionnel de théâtre, en fait. C'est vraiment un endroit, une espèce de plateforme. On est debout aussi avec des barres tubulaires qui font un peu penser au balcon du bronze. Je suis désolée, mais on est bien toujours. C'était là que je voulais en arriver.
Surprise.
Non, j'avais vu un seul autre concert le jour de mes 26 ans. Snow Patrol jouait là, donc j'étais venue pour le week-end avec Léa à Berlin. Et la salle était déjà comme elle est aujourd'hui. Elle
oui, c'est déjà là. Mais maintenant, il y a des gradins aussi sur le côté où tu peux t'asseoir. Enfin, c'est assez bizarre.
Donc, du coup, on a bu de la bière.
Oui, alors.
On a essayé de se faufiler derrière des grands Allemands. pour voir ce qu'on
alors voulait. D'ailleurs la bière, on a pris un truc au citron vert, putain ça se buvait rapidement, c'était assez dangereux. J'avoue que si j'avais été plus proche du bar, j'aurais repris une.
Elles ont pris des Jever Lemon.
Merci Marie. Je savais plus que ça s'appelait Jever. C'est Jever qui s'écrit J-E-V-E-R comme ça se prononce en allemand. Alors Marine, Band of Horses, c'est un de tes groupes préférés.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Dis-nous un petit quelque chose sur ce concert.
Un petit quelque chose. J'ai eu un peu peur au début en fait parce que je me suis dit qu'il avait pris des substances illicites et qu'il avait l'air complètement taré sur scène et qu'il allait nous faire un... Je sais pas, c'était assez bizarre en fait. Et j'ai mis 2-3 chansons à vraiment rentrer dedans. Mais c'est absolument génial en fait. Il était, en plus, finalement, le fait qu'il ait pris des substances illicites l'a rendu très communicatif, a sauté partout. C'était très bon. Le son était moyen, ce qui fait que vous êtes partie et que vous m'avez laissé toute seule. Mais bon,
c'est
un choix.
Vous êtes déplacée dans la salle.
Oui, mais attendez, vous êtes déplacée. Mais attendez, je suis en train d'expliquer. Donc on était vraiment sur la droite, à côté des baffes. Et donc en gros. Le son était fort et surtout c'était un problème avec la guitare du mec qui était juste à droite et qui était trop forte et ça faisait
un grésillement
moi personnellement ça ne me gênait pas mais ça gênait les deux autres et en gros elles ont dit que il y a eu une chanson assez calme. Je me suis dit, ok, si ça peut être comme ça, on peut rester. Finalement, la chanson d'après, ça commence à dire, ok, on part. Bon, Marine, on va se mettre sur le côté. Puis elle m'a envoyé un message après en me disant, genre, si tu veux nous rejoindre, on n'est pas loin.
Moi, j'étais bien. Si j'ai revenu, la salle pour te dire.
Ma chérie, on n'est pas loin. On est désolé, hein. Mais
si tu veux nous rejoindre,
on est juste là avec un monsieur avec une casquette. Oui, en plus, moi, j'ai regardé, j'ai vu 5 ou 10 casquettes. Genre, sure. Mais bon, c'était super. C'était vraiment super, j'étais très contente. Bon, il y a eu le seul petit hic dans The Funeral, il a cassé une corde au moment.
Mais ce qui était super beau du coup.
Mais c'était bien parce qu'il s'est arrêté, il avait oups, et puis il y avait toujours tendance à dire fuck it. Et elle ne l'a pas entendu, mais moi j'entendais, il disait pour plein de trucs, fuck it. Ok.
Alors c'est hyper rigolo parce que moi j'ai pas du tout eu cette impression qu'il était stone ou high. En même temps, je suis pas douée. Moi, les gens qui sont alcoolisés, je peux les voir, mais les gens qui sont drogués, moi aussi j'y connais rien, donc du coup je. Enfin. Moi aussi je suis pas trop branchée drogue du coup je vois pas donc moi je l'ai pas du tout senti comme ça, j'ai senti juste high on energy.
Mm-hmm. Oui, moi aussi.
Oui, mais après c'est ça, après ce que je veux dire c'est que
au tout début j'ai absolument pas du tout pensé ça une seule seconde. Okay. Qu'il était, c'est pour ça que c'est rigolo que tu le dis. Par contre effectivement il y avait un espèce, ça créait un bourdonnement dans la musique, ce qui fait que j'arrivais pas à entendre la musique, du coup tout ce que j'entendais c'est le bourdonnement, tout ce que j'entendais c'est que ça m'énervait et donc j'appréciais absolument pas le concert et je me suis dit j'ai pas du tout envie de gâcher ce moment et de gâcher mon rapport avec ce groupe à cause d'un truc de là où je suis debout quoi, c'est idiot. Et à un moment en fait j'ai fait presque toute une chanson en me bouchant les oreilles, enfin en m'appuyant sur les tympans et tout d'un coup j'entendais sa voix, j'entendais la musique, je me disais ah oui ça a rien à voir, donc je suis allée d'abord explorer pour voir si le son était différent, le son est pas très différent, donc je suis revenue puis finalement j'ai décidé puis, et j'ai senti que Carole était de... Ça avait aussi un truc.
Oui, moi j'avais perdu l'oreille droite hein, de toute façon. Et puis j'ai commis une erreur fatale d'organisation, c'est que j'ai pas emmené de bouchons, ce que je fais d'habitude dans les concerts ou dans certains gros cinémas multiplex où le son est hyper fort et où j'avoue, même dans les cinémas, ça m'arrive de porter des bouchons pour pouvoir entendre correctement les voix et pas être.
Oui, mais je suis assez.
Avoir les oreilles qui vibrent à cause de la musique.
Une fois qu'on s'est déplacé, j'ai beaucoup plus apprécié le concert et j'avoue que. Ça m'a vraiment plu de les voir sur scène. Et lui, justement, il est vraiment... En fait, c'était rigolo parce qu'à la fin, j'ai dit à Carole, putain, c'est vraiment le rock'n'roll 2017. Ouais. Il est tout le temps sympa, il n'arrête pas de dire merci à tout le monde, il n'arrête pas de dire merci aux autres. Le mec, Matt, qui est nouveau dans le groupe, mais qui le suit, connaît depuis qu'il est jeune, il a dit, ouais, on était trop fans de toi. Puis à un moment, Matt a dit un truc en allemand, il a dit, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a dit qu'il voulait partir, il vous a dit qu'il passait par un bon moment. Non, qu'est-ce que je peux faire pour te faire rester ? Il y avait quelque chose de très... pas du tout rock'n'roll en fait. Enfin, rock'n'roll version 2017, justement, pas du tout rock'n'roll version 70. Ils étaient étonnés à quel point, justement, ils étaient intenses au niveau de la musique. Tu sens qu'ils viennent, ils vivent à Seattle. Tu sens qu'ils ont du grunge aussi dans les veines, vraiment. Parce qu'il y a des moments où c'est really rocked out.
Ah, c'est
beaucoup clair. Plus que ce que j'imaginais. Mais j'avoue que les moments quand même privilégiés, c'est quand ils ont chanté les chansons qui.
The Funeral spécifique.
Ça c'était la fin, mais non, quand ils ont chanté No One's Gonna Love You,
yeah.
Avant le rappel, le coup du rappel aussi, où il a dit bon, alors là, c'est notre dernière chanson, et puis après vous allez applaudir, et puis après on va revenir, on va faire d'autres chansons. Et quand il est revenu, il a dit on va faire a couple of songs, donc au moins deux chansons. Il revient et fait The Funeral, qui était un moment incroyable. Vraiment, en plus, ça explosait vraiment sur scène après le début qui est très calme. Ce sera, à mon avis, notre chanson de la semaine à la fin du podcast. On va la mettre.
C'est
si
clair.
On a le temps. Sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Et ensuite, je me suis dit, ils ne peuvent pas faire mieux. Ils ne peuvent pas faire plus. C'est une parfaite... En plus, il y avait quelque chose vraiment sur l'enthousiasme du reste de la salle. Je veux dire, ils ne peuvent pas faire... Ils ne peuvent pas suivre ça par un autre truc. Et je vois qu'ils commencent une autre chanson. Je me dis, merde. Et là, ils font The General Specific, qui est une chanson qui était dans Gossip Girl, dans un épisode de Noël, qui est la raison pour laquelle c'est dans ma compilation de Noël originale qui s'appelle Songs for a Secular Christmas. Et j'adore cette chanson, c'est la première que j'ai connue d'eux, je m'y attendais tellement pas, il y a une énergie dans ce truc-là. Et je suis là, oh my god, c'est une chanson spécifique. Et c'est le moment où je suis vraiment devenue hystéro.
Et moi, c'est là que je me suis rendu compte que je connaissais les paroles par cœur.
Donc voilà, ça c'était moi, toi Carole, Band of Horses, que tu connaissais pas du tout.
Non, que je connaissais pas du tout, et c'est une expérience que j'avais déjà faite de découvrir des groupes en concert. Enfin, je connaissais pas, j'avais déjà entendu des titres quand tu m'as fait écouter des choses, mais enfin, moi je suis une quiche totale en musique. J'écoute toujours les mêmes trucs en boucle depuis 20 ans. Donc voilà, elle a décidé de me prendre en main sur ce sujet-là. Voilà. Il y a du boulot.
Quand tu parles de compil Buffy, non, mais déjà, elle ne reconnaît pas les chansons qui sont dans Buffy. Genre, je lui dis, tu vois ce que c'est, ça, cette chanson? Donc, excuse-moi, là, il y a vraiment un souci.
Oui, on a tous des rapports, des objets différents. C'est et c'est vrai que moi, la musique, ce n'est pas quelque chose qui me.
C'est pas
du coup, qui m'interpelle quand je regarde des films ou des séries. Enfin, je suis sensible d'un point de vue sensoriel, émotionnel, mais c'est vrai que je ne retiens pas et que je ne veux pas chercher après, derrière. Voilà, je suis plus sensible à des questions de lumière, d'autres choses.
Enfin, donc, Band of Horses.
Band of Horses. Moi, j'ai passé une soirée assez incroyable, du coup, de découvrir un groupe dans ces conditions-là et d'être dans un truc justement juste sensoriel. Donc au début, c'était un petit peu frustrant, effectivement, parce que j'avais du mal à entendre leur voix, vu comment on était placé. Et du coup, j'avais quand même envie de pouvoir entendre les textes un petit peu. Voilà, donc ça, c'était plus intéressant pour moi après, même si c'était cool quand même d'être ensemble. Le but, c'était aussi d'être ensemble, de vivre le concert ensemble et de vous voir, vous, vos réactions. C'était pas que vous voir les artistes sur scène, c'était vous voir regarder le concert, qui était aussi un très très beau moment dans un lieu assez. Je trouvais ça assez incroyable parce que quand on voit les bâtiments de l'extérieur, ça paie pas de mine. On a presque l'impression qu'on est dans une espèce de petite zone commerçante et on se retrouve dans cette salle.
Qui ressemble à un théâtre russe à l'intérieur.
Oui, voilà, c'est donc assez surprenant. Donc voilà, très belle soirée.
Il y avait aussi quelque chose sur l'enthousiasme des gens du public. Il y avait plein de gens qui étaient vraiment fans. Et tu le sentais, et moi ça m'a vachement fait plaisir.
Et il y avait plein de gens de tous les âges, on a vu des petites ados très maquillées et des personnes quand même.
Il y avait un capitaine
aux cheveux
fort
blancs, un capitaine de navire avec sa béquille qui était au milieu de la foule, et il y avait quelque chose de très transgénérationnel.
Une grosse barbe, c'était très drôle. Pas une chapeau, une casquette de capitaine de.
C'est igloo, capitaine igloo. Les trucs qui sont sur les.
Il a
un truc de marin, il a une grosse barbe blanche.
Oui, mais voilà, c'était Captain Igloo, il était dans la foule. Il y avait une nana, et le nombre de gens tatoués aussi, c'est toujours à Berlin, je n'en reviens jamais.
Et on a finalement acheté des chacune le même t-shirt.
On a fait un petit moment fanitude, et on s'est toutes les trois acheté le t-shirt Band of Horses, qui vous va d'ailleurs toutes les deux parfaitement bien. Moi, le mien, je ne sais pas s'il me va aussi bien qu'il vous va à vous, mais en tout cas, je l'aime beaucoup parce qu'il est très très doux et très agréable et très joli à regarder. Et depuis le début de la soirée, Marie nous faisait une promesse qui était « Si c'est pas fermé, quand on sort, on va au Vietnamien en face !»
Parce qu'on avait quand même super faim. On s'était bien dépensé dans la journée, on n'avait pas mangé... c'est pas une journée où on a vraiment beaucoup mangé en plus.
On est allé chez Ami.
Ami, oui.
H-A-M-Y, qui était effectivement pile en face. Hein. J'imagine que toi, quand on avait dit en face, t'avais peut-être pas capté que c'est la terrasse juste en face.
On était passé devant, j'avais repéré ce qu'on était passé devant dans l'après-midi en vélo de jour.
Et j'avais dit, ah ouais,
elle m'avait fait des, Yael m'avait fait des grands gestes. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Et donc, du coup, c'était un effet d'annonce involontaire, parce qu'on n'avait pas complètement décidé d'où on mangerait le soir, mais ça s'est fait de façon assez naturelle. Donc, j'ai pu confirmer que oui, effectivement, pour une somme très très modique.
4,90€ le plat.
Voilà.
Un curry.
Le curry, on a extrêmement bien mangé.
Et c'était
plus
c'était copieux. Un smoothie à la pastèque.
Ouais, c'est même pas un smoothie, c'est vraiment
un jus de pastèque, en fait.
C'est un jus de pastèque. C'était très bon.
Qui est assez parfait quand tu es un truc un peu épicé. Et ensuite, on est rentré et on a dormi, ce qu'on avait bien mérité. Je crois que tout le temps, j'arrêtais pas de dire « Oh, mais sinon, je vais te montrer une vidéo, on va regarder un épisode d'Angel, de machin. » Vous allez voir, on a toujours eu un peu de mal puisqu'il se passait trop de choses. Donc là, je tiens juste à dire qu'on parle depuis très, très, très longtemps et on a couvert une journée de ton séjour. Ce podcast sera peut-être en plusieurs parties, on verra.
Voilà, c'était 24 heures dans la vie d'une femme.
C'est ça. Bah oui, en même temps, c'est normal que 24 heures dans la vie de trois femmes, ça prenne plus de temps.
Exactement.
On arrive donc à mardi. Mardi, toi, tu travaillais à Marine. Du coup, tu as quand même pris le temps de nous faire à manger.
Oui, je travaillais le soir, donc...
Oui, c'est vrai que
tu Donc, je me suis juste reposée parce que vous vouliez faire une journée culturelle.
Voilà, on a donc commencé la journée culturelle par... montrer des extraits de Arrow à Carole parce qu'il fallait la convaincre de regarder et de comprendre à quel point Holly City, Arrow et Felicity, leur histoire d'amour, c'était un truc passionnant et génial. Donc on a montré tous les extraits de Felicity, de toutes les apparitions de Felicity dans la première saison jusqu'à l'épisode 15. Mais à part
voilà,
ça, on n'a pas...
un petit cours en accéléré et maintenant à moi de trouver un moyen de me procurer les épisodes de façon tout à fait légale.
Et de regarder,
pour regarder la série dans son intégralité.
T'as fait quoi, Boston ? J'ai regardé Arrow. Et effectivement, le coup de la salade, c'est que t'étais là, bon, je vais vous faire une petite salade, et après, du coup, on était là, merde, on regarde Arrow depuis une heure.
Vous êtes sauté dans votre douche parce que vous n'avez pas encore pris de douche.
Détail technique.
Et donc, j'ai préparé la salade, on a mangé, les garçons étaient partis manger.
Et parce que Petit Bert a aussi de la visite, il a son meilleur ami qui est là.
Léopold.
Et pendant qu'ils étaient partis manger au Burger King. Et oui, parce que le Burger King, il est bon. Ah, maintenant, il y en a à nouveau en France. Mais pendant très longtemps, j'allais manger au Burger King à Berlin parce qu'il n'y en avait plus en France. Et on s'est retrouvés dans la situation où Petit Bert n'avait pas envie de faire le tourisme. Et puis surtout, il était fatigué. Et par contre, Léopold avait besoin de justifier à ses parents qu'il avait fait un séjour à Berlin qui était culturel et pas seulement « j'ai traîné avec mon pote ». Donc, nous avons embarqué Léopold avec nous et nous avons fait le grand tour touristique historique que je fais faire à nos amis non-berlinois, Carole. Donc, en gros, je précise, on a commencé par le mur de Berlin, on est passé par Alexanderplatz, Berliner Dom, la porte de Brandebourg, le mémorial de l'Holocauste, le Reichstag et Potsdamerplatz. Comme ça, vous savez.
Toi, en marchant.
En marchant.
Mais c'est vrai, c'était l'occasion de voir plein d'espaces qu'on a forcément tous vus en photo 15 milliards de fois et d'un petit peu d'arriver à configurer les choses dans l'espace les unes par rapport aux autres. Voilà. Pour ça, je disais que j'aimais beaucoup marcher dans la ville pour arriver à recoller les pièces du puzzle et à voir quel est l'environnement autour. Enfin, voilà. Pour moi, c'était pas évident que... les parties du mur de Berlin qui étaient aujourd'hui visibles, on les voyait depuis un petit trottoir et qu'il y avait la circulation juste à côté. Tu vois. Pour moi, c'était un espace plus vaste, plus ouvert autour. C'était à la fois... c'était assez bizarre, en fait, je trouve, de découvrir cet espace-là, parce que...
L'Eiffel Gallery est de plus en plus bizarre, en fait.
Il y a plein de graffitis, il y a plein de tags. Attention, plein de tags sur une partie du mur, donc pas très beau. Et puis après, plein de graphes, de performances picturales diverses et variées. Pas toujours très éloquentes ou pas toujours très, très belles. Enfin, belles, c'est subjectif, mais pas toujours, pas toujours très efficaces dans leur... dans leur ambition esthétique, on va dire.
Donc pas belle, en gros. C'est la version intellectuelle de c'est pas beau.
Non, mais d'aucuns peuvent trouver ça très, très beau. Il y a des choses qui ne m'ont pas parlé. Après, on a vu une très belle une très belle fresque concernant les murs et le fait de devoir se débarrasser de tous les murs qui continuent à être érigés de par le monde. Et cette fresque-là avait été taguée d'un message anti-Trump qui nous a fait évidemment le plus grand plaisir.
Fuck Donald Trump.
Mais c'est vrai simplement. Et ça m'a interpellée de voir cette peinture-là parce qu'effectivement, à partir du moment où on longe le mur, on pense à ça. On pense que oui, effectivement, ce mur-là est tombé et il a une importance capitale dans l'histoire de l'Allemagne, de l'Europe et du monde, mais que la question des murs est encore très prégnante. Donc malgré tout, même si c'est pas très joli et que ça fait pas l'effet qu'on imaginerait que ça peut reproduire sur nous, cet endroit-là est quand même important et symbolique parce que c'est à la fois un élément du passé et en même temps un élément d'actualité permanente. Voilà. Donc c'est pour ça que cet espace-là est quand même important.
C'est un peu pour ça que j'ai passé toute l'après-midi à faire un cours magistral sur l'histoire d'Allemagne, notamment pour Léopold, plus que pour toi. J'ai essayé de couvrir tout un tas de choses, de parler de la Seconde Guerre mondiale, de parler des résultats de la guerre froide, mais aussi ensuite de remonter un peu en faisant des trucs sur le 19e siècle et sur... Voilà. Et c'est parce que je trouve que c'est une super leçon de vie, la leçon d'histoire. La leçon d'histoire, c'est une façon de parler aussi d'aujourd'hui, c'est une façon de mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis passionnée par la politique, mais notamment aussi parce que je trouve que, en tant qu'historienne, qui est techniquement une partie de ma formation, et mais je pense surtout ma vocation première interne, existentielle, on pense le présent différemment parce qu'on voit le passé dedans. Et donc je trouvais ça important, surtout pour Léopold qui connaissait un peu l'Allemagne, mais qui a 19 ans, d'essayer de mettre plein de trucs en place. Et l'intérêt de ce petit séjour qu'on a fait, c'est qu'en fait, jusqu'à Alexanderplatz, on est vraiment dans l'histoire de Berlin-Est et dans les questions de la guerre froide. Quand on passe de l'autre côté de la tour de la télévision, on arrive sur une place où tout d'un coup, architecturalement, c'est architecturalement, c'est très différent. Et on arrive vers le Berliner Dom, on arrive vers Unter den Linden, on arrive vers le vieux Berlin, le Berlin impérial. Et ensuite, quand on repasse Brandenburger Tor, donc la porte de Brandebourg, on arrive sur le Berlin d'aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles constructions, le monument de la Shoah, le monument, la reconstruction du Reichstag avec son dôme de verre pour la transparence, puis finalement Potsdamer Platz, où là on arrive à comment le nouveau Berlin a reconstruit, construit des nouvelles choses, se réinvente par rapport à toute cette histoire qu'on a vue. Et je trouve ça pas mal, parce que c'est vraiment un crash course sur l'identité allemande, en fait.
Je vais juste revenir faire une petite parenthèse un petit peu impudique sur le mur, sur mon souvenir du jour où on a appris que le mur était tombé. Et du coup, le rapport que j'ai à cet objet, concrètement, moi, j'ai un souvenir vraiment au ralenti, comme une scène de cinéma, en fait, du jour où je me suis levée, et comme tous les matins, je sens l'odeur du café que ma mère est en train de faire, j'entends le bruit de ses bracelets et j'entends le son de la radio. Donc c'est trois éléments assez, c'est mes petites madeleines de Proust, trois éléments récurrents, et tout doucement je m'approche d'elle, elle est assise en train de boire son café, hyper concentrée, hyper immobile, alors que c'est quelqu'un qui est une véritable pile électrique. Elle se tourne vers moi, son visage se décompose, elle me dit « le mur est tombé ». Et c'est un moment hyper fort de mon enfance, et c'est à ce moment-là où elle me regarde et où je comprends à son expression l'importance de cet événement, même si on parlait toujours beaucoup de politique chez moi, qu'on m'expliquait plein de choses, et que j'ai 8 ans et que je comprends quand même déjà un certain nombre de choses, que j'ai des cours d'histoire, etc. Mais c'est vraiment à ce moment-là, dans son regard, que je comprends l'importance de cet événement, et aussi que je prends conscience de l'existence matérielle de ce mur. Parce que ça me paraissait tellement aberrant, l'idée qu'un mur coupe une ville en deux. Et dans mon esprit d'enfant, je me disais, mais comment c'est possible qu'on fasse une chose pareille? J'avais l'impression que c'était une histoire de science-fiction, que c'était une histoire orwellienne, mais que ça ne pouvait pas être vrai. Et qu'en plus, il y a cette distorsion entre le fait qu'on parlait du rideau de fer, mais que le rideau de fer, c'était du coup une expression symbolique, mais qu'en revanche, le mur de Berlin était bien concret. Donc pour moi, il y avait une dissonance entre les deux que j'arrivais pas à résoudre, et que le mur de Berlin devient un élément réel, et que je me dis, oui, des êtres humains ont vraiment fait ça, érigé un mur pour couper une ville en deux au moment où le mur tombe. Voilà, c'était le petit moment
larmichette. Je pense que notre génération, on a tous le souvenir de comment on l'a appris, ce qui s'est passé, pourquoi. Et pratiquement chaque fois que je me retrouve à aller là-bas avec quelqu'un de nouveau, il me raconte son souvenir. Et moi, je me rappelle juste des images à la télévision et de pas vraiment comprendre ce que ça veut dire, de mes devoirs, les gens passer au-dessus du mur. Tu t'en souviens, toi, Marine, de...
Pas vraiment. J'ai des souvenirs. Non, pas vraiment, en fait. Mais bon, moi, c'est ma famille. Je parlais pas. Je communiquais pas. Donc...
Ouais.
Mais j'ai des souvenirs, mais j'ai
des images.
J'ai un souvenir, mais qui est pas là, en fait.
Moi, c'est très... J'ai pas de souvenir de conversation. Enfin, si, j'ai souvenir d'une conversation après. Non, parce que ce qui est bien, c'est que très souvent, chez les gens, tu découvres le pire côté de la famille. J'ai une copine, ce souvenir, c'est la grand-tante ou grand-mère raciste qui voit deux personnes de couleurs différentes s'embrasser devant le mur qui est en train de s'effondrer et qui dit « Ah, ils sont obligés de montrer ça à la télé ?» Première réalisation. « Ah, dans ma famille, ils sont un peu cons des fois. » Mais surtout, compréhension pour elle, tout de suite, de pourquoi ses parents sont... pas sympa avec cette personne de la famille, et il y a une espèce de réticence à la voir, et tout d'un coup elle comprend pourquoi dans ce moment-là. Et moi, je me rappelle de ma grand-mère qui avait peur, comme toute grand-mère juive, qui avait peur que l'Allemagne se réunifie, et qu'en se réunissant, et ben ils redeviennent forts et ils redeviennent dangereux pour nous. Ce qui est complètement absurde quand tu comprends, enfin maintenant moi qui est où c'est mon pays d'adoption. Quand tu connais l'histoire de l'Allemagne vis-à-vis de ça, alors pas complètement absurde parce que j'en ai parlé, il y a une montée du néo-nazisme dans les parties de l'Est où on n'a pas du tout fait d'éducation historique autour de ce qui s'est passé pendant le Troisième Reich, mais malgré tout l'Allemagne est un pays qui est beaucoup plus ouvert à son travail de mémoire, qui s'est posé beaucoup de questions pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, et donc quelque part c'est, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, un des pays où on se sent le plus safe, c'est l'Allemagne. Petite fin de parenthèse. Donc alors, de tout ce que je t'ai raconté, abreuvé, est-ce qu'il y a une petite anecdote historique qui t'a marqué, qui t'a plu?
Tu me demandes trop de...
non, mais de, tu vois ce que je veux dire, je te demande pas de me raconter les détails, c'était juste pour savoir si... est-ce que dans le brouhaha de toute ma parole infinie pendant des heures, il y a au moins quelque chose qui t'a un peu...
Après ce petit moment d'auto-dénigrement...
Je vais chercher les cookies... Et pendant qu'elles font ça, hein, je
reviens. Non, mais il y a eu plusieurs moments importants dans l'après-midi, mais je pense que l'autre moment qui a été important pour moi, c'est le moment où on a traversé ensemble le
mémorial.
Le mémorial de l'Holocauste. Qui est un espace que j'avais beaucoup vu en photo. Il y a eu beaucoup de polémiques autour des photos prises dans cet espace. Il y a quelques mois, j'avais une série d'articles qui étaient passés sur quelqu'un qui s'était insurgé sur le fait qu'il y ait plein de gens qui se prennent en selfie dans cet espace-là, et à quel point c'était presque amoral de faire ça. Et il y avait même des photomontages qui avaient été faits. Où quelqu'un avait pris les selfies des gens dans le mémorial de l'Holocauste et avait remplacé les images des blocs qui constituent le mémorial par des images de charnier, pour faire comprendre aux gens à quel point se prendre en photo dans cet espace-là était indécent. On peut ne pas être d'accord avec cette idée-là.
C'est encore une course-poursuite à la pureté.
Voilà, course-poursuite à la pureté qui est assez particulière, mais tout ça pour dire que cet espace-là, du coup, était un espace qui génère les passions, la controverse, etc. Et du coup, ça... J'étais intriguée à l'idée de voir à quoi ressemblait ce lieu, parce que sur les photos, on ne se rend pas bien compte en fait de la taille, du volume, de la hauteur et du côté labyrinthique de ce monument qui existe à partir du moment où on le traverse, finalement.
C'est ça, c'est donc juste pour décrire, mais je vous conseille, si vous êtes à Berlin, mais allez absolument le voir. Pour moi, c'est le monument le plus incroyable, à tout point de vue, le plus intelligent que j'ai jamais vu de ma vie, parce que c'est un mémorial ou un monument, c'est toujours un truc un peu symbolique, un peu différent. Là, il y a une vraie expérience sensorielle et intellectuelle. Et en fait, c'est un ensemble de blocs de granit, il me semble, en tout cas de blocs gris foncé. De loin, on dirait qu'ils ont tous exactement la même forme. C'est des rectangles en hauteur. Et en fait, ils sont positionnés aussi de l'extérieur, on a l'impression, de façon perpendiculaire stricte, c'est-à-dire avec des allées entre chaque rangée dans les deux sens. Et en fait, et ça fait comme une espèce de montagne quand on est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus élevés au-dessus. Et en fait, la réalité, c'est quand on commence à le traverser, au début, ils arrivent au niveau de la cheville, et très vite, ils sont à un mètre au-dessus de nos têtes, parce qu'il y a une espèce de variation du sol et de la taille des dalles, enfin des blocs, qui fait qu'on est tout le temps dans un sentiment d'incertitude. Le fait qu'il soit perpendiculaire, que tout est très carré, fait que quand on est entre deux blocs, on ne sait jamais ce qui va arriver au croisement du prochain. Du coup, il y a toujours un moment d'angoisse et il y a toujours un moment où aussi on peut être surpris par quelqu'un qui surgit tout d'un coup. Plus il y a un espèce de côté de hauteur variable qui fait qu'il y a un truc claustrophobe. Et en même temps, on voit toujours le ciel. Et surtout,
c'est très lumineux. En même temps, il y a toujours des espaces de fuite. Voilà. On peut toujours sortir.
Il y a toujours une ligne de fuite. Mmh. Il y a toujours une perspective vers la sortie. Mmh. Ce qui est complètement incroyable.
Mais le sol, ça fait comme une vague, en fait.
Oui. Le sol, c'est ça. Le sol fait comme une vague, mais c'est ce qui est vachement fort sur l'incertitude du demain, du qu'est-ce que...
Il y a quelque chose, du coup, de très... qui peut par moments être très oppressant. Et en même temps, c'est un espace qui est très sombre et très lumineux en même temps. Donc, plein de contradictions. Et où on se sent perdu en même temps. C'est un espace qui est aussi parcouru par des enfants donc, qui vont s'y promener comme dans un labyrinthe, comme si c'était Alice au Pays des Merveilles. Et il y a plein de rires qui émergent en fait, de cette espèce de gros bloc gris. Donc, cette confrontation. Ben, voilà. Comment la vie retrouve sa place dans un espace qui est dédié au souvenir de la mort.
Pendant longtemps, moi, ça m'a dérangé ce genre de choses. Et d'ailleurs, du coup, j'ai tendance à essayer de le montrer toujours la nuit. Ou au coucher du soleil, parce qu'en plus il y a quelque chose d'assez fort quand c'est... Bon, quand c'est en hiver et la nuit, du coup il y a peu de gens qui viennent te faire chier et qui viennent faire justement des selfies, du bruit, du café, parce que t'as aussi tout un tas de groupes d'étudiants, de lycéens, et du coup t'as tendance à avoir des blagues débiles, des gamins qui essaient d'escalader des trucs et tout. Et en fait jusque là ça m'avait toujours un peu dérangé, en en parlant là tout d'un coup je suis en train de réaliser, mais je crois que la dernière fois ça m'avait fait ça déjà aussi, la réappropriation du lieu par les enfants, le fait que la vie survit, enfin, surpasse tout, que quel que soit le passé, la vie ressurgit et réexiste, et le rire et le jeu, et que quelque chose qui est justement un charnier peut aussi devenir un espace de jeu. Quelque part, c'est encore plus fort. Et je trouve vraiment ce truc absolument fabuleux.
Et oui, c'est parce que la vie trouve toujours son chemin.
Exactement.
Pardon.
Ce que je trouve aussi fabuleux, c'est à quel point. C'est un message d'espoir historique. Le fait que l'Allemagne, c'est en Allemagne et à Berlin qu'ils aient créé ce monument-là. Et qu'ils l'aient mis à côté de la porte de Brandebourg et pas très loin du Reichstag, volontairement. Ils ont alloué cet espace à un mémorial. Ils savaient, avant qu'ils sachent ce qu'ils allaient faire, ils savaient qu'ils seraient là. Donc effectivement, je suis d'accord, c'est toujours le highlight de ces visites, c'est ce moment-là où tu vas au mémorial. Le séjour de Carole est loin d'être terminé. Pour découvrir la suite, c'est dans la seconde partie de la semaine berlinoise 4. This is a new summer feeling. Et là, Marine a fait « Tell me !» Et là, « Where do we go from here ?» Et du coup, elle a fait « Ok, I'm gonna go now !» Parce qu'il y a le moment de « Tell me !» Il y avait le côté « Bon ben, ça y est, je vais entre vous !»
Il y a chaque fois sur la séquence. Moi je tombe sur un truc pet vacuum.
Ah putain, c'est un truc pour
aspirer les poils. Ça marche sur Yael. Sur les cheveux, hein, pardon. En même temps, c'est peut-être pas mal.
Bon, alors la question c'est, il y a d'autres chaises qui ne grincent pas?